Revue de presse avec vous, Isabelle Souquet, avec des journaux pleins d'espions ce matin.
Ben oui, Eric, qui n'a pas rêvé d'être agent secret, même si on sait un peu, on a un peu compris, Eric, votre double vie, qu'on sait ici que Patricia Martin est une sorte de Matari de la radio. Eh bien, Le Point dévoile la vraie vie des espions français, et on n'est pas déçus tellement on pense au célèbre bureau des légendes, que, soit dit en passant, on adore, paraît-il, à la DGSE. La DGSE, et ses 7000 agents, qui a subi une transformation radicale en 10 ans, il a fallu mettre en place de quoi contrer la montée du terrorisme, il a fallu aussi développer de nouvelles armes pour combattre l'agressivité de certains services secrets. Le journal cite nommément les Russes et les Chinois qui tentent, dit-il, tout simplement de déstabiliser les démocraties, l'agence le dit sans mâcher ses mots. Il faut aussi se protéger de ses meilleurs ennemis, avec en première ligne cette fois les États-Unis qui n'hésitent plus à espionner le personnel politique français à son plus haut niveau. Alors à un bout de la chaîne, on a accentué le recrutement des meilleurs cerveaux issus des plus grandes écoles. On a aussi continué à recruter les fameux alphas, ceux qui ont le droit de tuer, entraînés loin du monde, tenus à l'écart des services, des outils de guerre à faire là aussi pâlir des scénaristes.
Un autre espion, cette fois dans l'Express.
Et c'est un Français, portrait du Frenchie du FBI. Pendant 20 ans, Mark Ruskin, le seul franco-américain du bureau, a passé sa vie à se fondre dans le décor. Un homme caméléon qui parlait couramment 4 langues et avait une douzaine d'identités. Alors, il était le petit truand Alex Perez pour trafiquer de l'héroïne ou négocier des bijoux volés, Pascal Latour pour des missions plus diplomatiques, ou encore Sal Morelli, Eduardo Dean ou Daniel Martinez quand il traitait avec les gros bonnets de la mafia new-yorkaise. Et quand Mark Ruskin sort du restaurant après l'interview, conclut Express, personne ne se douterait que ce désormais professeur de droit pénal à New York, en costume bleu marine, a fait tomber autant de trafiquants chinois, de flics ripoux, de terroristes ou de traders véreux. Et puis toujours dans ce chapitre, qui décidément me passionne, à noter encore dans Le Point une découverte qui pourrait bien être très utile à nos espions, une sorte de film plastique très technologique. Il tord les rayons lumineux et renfloue les objets derrière lui, tout en laissant l'arrière-plan parfaitement visible. En un mot, l'objet qu'il recouvre disparaît, mais pas le fond du décor. C'est développé par une société canadienne spécialisée dans les techniques de camouflage pour l'armée, et c'est peut-être le secret de la cape d'invisibilité de Harry Potter.
Mais c'est vous en fait la Matari, hein, je vous signale.
Un œil sur la presse régionale à présent, Isabelle. Cette presse régionale où l'on parle des gilets jaunes, ça fait un an ou presque que le mouvement a débuté.
Oui, ils sont en une de la Marseillaise qui s'interroge, où en sont-ils? Eh bien, ils font le point à Montpellier où ils se retrouvent ce week-end pour préparer des actions alors que se profile la bataille des retraites. Et pour l'Obs, dont un reporter a suivi les gilets jaunes tout au long de l'année, eh bien, le mouvement peine à trouver un second souffle. L'enthousiasme des premières manifs de la rentrée a été bien douché par le choc de la réponse très musclée des forces de l'ordre. Alors un an après, les samedis sont clairsemés, les ronds-points désertés, le mouvement a aussi été miné par des guerres internes. Alors oui, il y aura du monde pour le week-end anniversaire, conclut l'Obs. La colère reste, mais pas les troupes. Et puis il y a aussi les troupes des militants pour le climat qui, elles, s'entraînent à la désobéissance civile. C'est Cosette qui nous en parle, qui a testé le stage de désobéissance. Les stagiaires ont de 20 à 68 ans. Ils sont profs de fac, chefs d'entreprise, étudiants et parfois aussi anciens gilets jaunes. On y parle organisation pour bloquer les banques, négociation avec la police, contact avec les journalistes et sur le plan pratique, par exemple, comment résister sans violence pour freiner une évacuation par les forces de l'ordre. Alors, on apprend à faire la chenille en s'accrochant très fermement les uns aux autres. Ils font tout cela parce que, disent-ils, les marches et les pétitions, eh bien, ça ne fonctionne pas.
Ce matin, Isabelle, vous nous emmenez aussi sur la route des vins.
Oui, même si ce n'est encore que l'heure du café, enfin, en ce qui me concerne. Ce papier du Figaro se déguste, lui, tout de même agréablement au petit déjeuner. C'est le rêve d'un étudiant qui voulait recenser tous les pays producteurs de vin. Il a mis 11 ans à accomplir cela. Jean-Baptiste Ancelot, c'est le nom de ce désormais expert en vin, a identifié 90 pays producteurs au lieu de la vingtaine qui était jusqu'ici communément admise. Au fil des années, il s'est fait expédier des échantillons de partout et puis il a dû finalement prendre le volant d'un camping-car aménagé tout exprès en bureau, labo, cuisine et il a parcouru 45 pays pour rencontrer des fous de vin du Danemark au Sénégal. Il raconte la gifle que lui a procuré un vin blanc de Tasmanie, les étoiles dans les yeux d'un petit producteur de Slovénie ou les mini-domaines qui font la fierté des vignerons danois. Et puis dans Le Parisien, il est aussi question de vin, mais cette fois-là au chapitre des faits divers. Figurez-vous qu'avec l'engouement mondial pour les grands crus, on sait maintenant que que des Pétrus ou des Romanée Conti atteignent des quotas 5 chiffres, les casses se multiplient dans les caves à vin de grands restaurants ou de particuliers, au point de talonner, selon la police, les attaques de banques ou de bijouteries.
Eh bien, servez-vous largement, mais pas plus haut que le bord. Une révolution dans le monde du cinéma à présent.
Oui, et quand un monstre sacré, un génie, un maître, on ne sait plus quel adjectif dégainer, quand on parle Scorsese, quand un tel réalisateur donc fait le choix du cinéma en ligne pour son nouveau film, Irishman, c'est l'histoire d'un homme de main de la mafia, une œuvre qui parcourt des décennies de l'histoire américaine avec les vieux complices hein, Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, des septuagénaires qu'il a fallu rajeunir à coup d'effets spéciaux et donc de millions de dollars. Budget total, 160 millions. Aucun studio n'a voulu prendre le risque, sauf Netflix. Je ne trahis pas le cinéma, dit Scorsese, rien ne remplacera une belle salle, de beaux fauteuils, une qualité de projection. Le cinéma a survécu depuis 10 ans, c'est simplement ma façon de continuer la bataille.
C'est mon fils, ma bataille, chantait l'autre. C'était la revue de presse d'Isabelle Souquet. Merci Isabelle et à demain, il est 8h49.